Voilà, donc je suis très heureux de parler de la relation dans l'éducation, parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je vous dirai sûrement pourquoi un petit peu plus tard. Et puis parce que la relation dans notre éducation nationale ou autre, elle est souvent réduite à sa portion congrue. On l'apprend sur le tas, mais c'est tout. Et en même temps, nous sommes tous frappés, je pense, vous comme moi, par la souffrance, les difficultés qui sont liées aux relations, à la fois entre jeunes eux-mêmes, entre les jeunes et les parents, au sein du couple parfois, entre les collègues de bureau, de travail, voilà, et tout cela occasionne de la peur, des conflits, de la médisance, du repli sur soi. Et tout cela, nous le voyons malheureusement au quotidien chez les adultes. Et donc, si nous le voyons chez les adultes, eh bien, comment ne pas le voir aussi et ne pas prendre conscience de son importance dans le milieu scolaire et au-delà du milieu scolaire, pour les enfants eux-mêmes, puisque je parlerai aussi d'un certain nombre de cas qui peuvent se produire à la maison, hein, voilà, avec nos propres enfants ou petits-enfants. Simplement, avant de rentrer dans le vif du sujet, si je puis dire, voilà, c'est une approche plutôt personnaliste que je vais mener cet après-midi. C'est pas une approche individualiste, c'est vraiment l'élève ou l'enfant en tant que personne. Et cette relation personnelle est fondamentale. Donc je commencerai par vous donner peut-être développer un peu les six incontournables pour moi d'une relation saine. Voilà. Et puis dans un deuxième temps, on verra comment on les décline et comment elles se vivent ou ne se vivent pas dans le milieu familial ou le milieu scolaire. Voilà, la première qualité, la première exigence pour rentrer dans une vraie relation avec l'autre, c'est le respect de l'autre. C'est pas la tolérance d'abord, hein, parce que la tolérance c'est vraiment le degré zéro à mon avis du respect. Je ne suis pas appelé à tolérer l'autre, je ne suis pas appelé à le supporter, hein, je suis appelé à bien plus que ça. Donc la première condition à mon avis c'est le respect, et le respect de l'autre dans ce qu'il dit, dans ce qu'il est, dans sa façon d'être, qui n'est pas la mienne, qui ne me convient pas forcément, et je dois lui manifester ma considération, mon respect, parce que ce sont des préalables à la confiance. Et ce respect, il passe aussi par le fait que je n'attends rien en retour. Si je veux que ma relation soit vraie avec l'autre, je ne l'utilise pas. Hein, cette relation, elle est d'abord gratuite. Bon, ce respect passe par la gratuité. Il passe aussi par le regard, hein, d'ailleurs, respect. Vous avez spectare dedans, c'est changer de regard aussi. Hein, faire que le regard que je porte à l'autre, eh bien, soit une image du respect que je lui porte réellement. Et on verra que dans l'éducation, l'importance du regard est primordiale. Et évidemment aussi, si je veux respecter l'autre, si je veux rentrer dans une relation vraie et respectueuse de l'autre, ça commence évidemment par le respect de soi-même. Voilà. Et c'est-à-dire une connaissance fine de soi. Je fais écho au noticeoton grec, mais aussi, hein, ça résonne avec le aime ton prochain comme toi-même. Hein. Ce respect qu'on doit à l'autre, eh bien, comme préalable, c'est le respect que nous avons de nous-mêmes. Et quand je dis de nous-mêmes, c'est aussi de nos émotions, de notre ressenti, de notre vécu, et d'en avoir conscience. Donc, première condition à une relation saine, c'est le respect de l'autre dans ce qu'il est vraiment. Vous avez sans doute entendu la très belle parole du pape François, apprendre toujours à ôter ses sandales devant la terre sacrée de l'autre. Le sacré, hein, au sens propre, c'est ce qu'on ne touche pas, ce qui ne doit pas être touché ou souillé. Le deuxième incontournable, c'est évidemment, dans une relation, la confiance. Alors, le degré zéro de la confiance, c'est que mes propos ne vont pas être enregistrés, enfin, je ne parle pas d'aujourd'hui évidemment, ne vont pas être utilisés plus tard contre moi, ne vont pas être déformés, ne vont pas être falsifiés, ne vont pas être dénaturés. Et ça arrive malheureusement parfois, quand on utilise à dessein une extraction de ce que dit l'autre pour servir ce que je veux en faire. Mais cette confiance-là, elle est le degré supérieur de la confiance, évidemment. C'est de prendre conscience que dans la relation, l'autre peut me nourrir, m'apporter son savoir, m'apporter son point de vue, m'éclairer, enrichir mon discernement, voilà, et que, in fine, je peux me fier à lui. Si je ne pars pas sur cet a priori de confiance avec l'autre, pas être non plus naïf, hein, c'est pas, mais je serai dans une relation qui ne sera pas totalement authentique et vrai. J'en suis convaincu. Parce que s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de vérité. S'il n'y a pas de vérité, eh bien, soit on se cache, c'est-à-dire qu'on n'est pas soi-même, soit on se transforme, et dans ce cas-là, on joue un rôle. Hein. C'est le sens grec de hypocrite. Hein. Hypocritai, c'est le comédien. Hein. Je ne sais pas si vous... cette étymologie, mais c'est ça. Hein. On devient un autre que soi-même pour correspondre probablement à ce que je pense que l'autre attend de moi. Donc voilà, deuxième élément majeur, c'est la confiance. Le troisième point, c'est quelque chose auquel on est peu habitué et qui est l'écoute active. L'écoute active suppose de voir non pas le problème dans ses faits bruts, dans sa matérialité, dans ses manifestations objectives, mais selon la manière dont l'autre les vit et les ressent. Et ça demande un effort de décentration. En fait, il s'agit un peu d'être comme un miroir de ce que l'autre dit. C'est-à-dire que je ne vais pas interpréter le problème de l'autre, je ne vais pas le ramener à moi, je reformule simplement ce qu'il ressent, pour être bien certain que ce qu'il dit, c'est vraiment ça qu'il dit, et que je ne rapporte pas, ou que je ne réoriente pas ses propos vers une situation, par exemple, qui m'est arrivée. Ça vous est tous arrivé de rencontrer des personnes à qui vous vous confiez, vous parlez d'un événement, et vous avez à peine eu le temps d'en placer une, si je puis dire, que 30 secondes plus tard, elle dit « Ah oui, mais ça me rappelle, il m'est arrivé exactement la même chose. » Voilà, et d'embrayer sur ce qui lui est arrivé. Voilà, bon, pourquoi pas ? Mais on n'est pas dans une position d'écoute active, parce que quand l'autre vous confie quelque chose, il a envie que vous l'écoutiez vraiment, pas que ce qu'il va dire soit immédiatement rapporté à une autre expérience qui n'est pas la sienne. Donc l'écoute active, c'est un exercice au sens propre, c'est-à-dire qu'il faut s'y exercer, parce que notre penchant naturel ne va pas vers cela. On est très rapidement, enfin pour ma part en tout cas, hein, je ne sais pas comment vous, mais on est vite orienté vers des jugements de valeur, de trouver ce qui ne fonctionne pas dans la vie des autres, par exemple, et on se dit souvent, ah bah si j'étais à sa place, mais j'aurais pas fait ça, j'aurais fait telle ou telle autre chose. Voilà. Mais enfin, si on avait été vraiment à sa place, alors dans ce cas-là, on serait aux prises avec les mêmes émotions que la personne, on serait aux prises avec les mêmes préjugés que la personne, on serait aux prises avec les mêmes réactions naturelles de la personne, on serait aux prises avec les inquiétudes de la personne, on serait, enfin voilà, on serait l'autre personne. Hein, et du coup, il y a 9 chances sur 10 pour qu'on ait eu à ce moment-là la même réaction que celle qu'on déplore, qu'on vient de déplorer chez l'autre. Donc, cette écoute active, c'est de... Pour finir, c'est d'avant d'interpréter ce que dit l'autre, c'est de vraiment essayer de le comprendre, et non seulement de le comprendre, mais d'être au diapason de lui, c'est-à-dire de consonner avec ce qu'il ressent au moment où il vous dit la chose. Quatrième point, mes mots, le langage compris. Voilà. Autrement dit, mes mots sont-ils entendables au sens de compréhensibles ? Alors peut-être qu'on peut mettre la petite diapo, voilà, que vous connaissez sûrement, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre et ce que vous comprenez, il y a 9 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. Voilà. Alors évidemment, il ne s'agit pas ici de comprendre au sens langagier ou grammatical, mais vous voyez que dans ce petit texte de Weber, qui est assez connu, on voit tout ce qui peut distordre la relation quand on rentre en communication avec l'autre. C'est-à-dire qu'on ne parle pas, je pense qu'il faut partir du principe qu'on ne parle pas forcément le même langage et que les mots dans notre bouche n'ont pas la même résonance que dans l'oreille de l'autre. Et que la communication, elle demande des reformulations perpétuelles parce qu'il y a énormément de parasites sur la ligne entre l'émission et la réception. Et les parasites, c'est ça. C'est-à-dire que on n'exprime pas forcément parfaitement en mots ce qu'on a envie de dire. Nos mots ne correspondent pas forcément exactement à ce qu'on voulait dire. Donc, a fortiori, ils sont reçus par l'autre de façon probablement très différente de ce pourquoi ou de ce vers quoi ils étaient émis à l'origine. Et c'est encore plus vrai avec les enfants, évidemment. Enfin, on en reparlera. Parce que le bagage lexical des jeunes est moindre que celui d'un adulte, la maîtrise syntaxique est moindre aussi, et que par conséquent, on multiplie exponentiellement les possibilités d'incompréhension entre ce que dit l'enfant, le jeune, et ce que dit l'adulte. Le troisième, quatrième ou cinquième point, cinquième, voilà, c'est l'assertivité, autrement dit, savoir s'exprimer. C'est quoi l'assertivité? C'est un concept qui a été développé par nos amis américains, voilà, et qui dit en gros que quand on s'exprime dans n'importe quel acte de communication, on a beaucoup de mal à dire à l'autre ce que l'on a envie de lui dire sans que ce soit blessant, d'une part, ou bien que ce soit parfois de la manipulation, ou bien de façon agressive, ou bien une fuite. Autrement dit, je prends un petit exemple qui peut-être va vous parler. Voilà, vous êtes invité chez des amis qui vous invitent à dîner, et vous êtes au téléphone, ah ben voilà, les Dupont nous invitent à dîner, voilà. Et vous n'avez pas forcément très envie d'aller à ce dîner, mais vous allez quand même dire oui. Parce que, d'abord, vous ne savez pas très bien comment dire non, et puis ensuite, vous allez vous dire que si vous refusez l'invitation à dîner des Dupont, ils vont penser que vous leur faites la tête, ou bien que la dernière fois, c'était pas bon, ou bien que vous avez mieux à faire, etc., etc. Et vous allez dire oui, et vous allez aller à ce dîner, voilà, non, mais je pense que vous allez passer un bon moment, sauf que 3 semaines plus tard, les Dupont vont vous rappeler, parce qu'eux ont beaucoup apprécié le dîner, et vont vous rappeler, et vous allez décrocher, et Monsieur Dupont va vous inviter à nouveau à dîner, et vous allez être bien embêté, et vous allez dire oui à peu près pour les mêmes raisons que celles qui vous ont fait dire oui 3 semaines avant, et vous allez y aller vraiment un peu en traînant des pieds, voilà. Et puis 2 mois plus tard, ils vont vous réinviter. Et là, vous allez peut-être dire oui ou non, mais vous allez sûrement, une fois raccroché, exploser en disant mais ils sont impossibles, ces Dupont, enfin, ils ne peuvent pas nous lâcher un peu, ces Dupont. Et ce n'est pas les Dupont les fautifs, à mon avis, dans l'histoire. C'est nous qui avons décroché et qui n'avons pas été en mesure d'exprimer ce que nous voulions dire. Voilà, qui était un non, mais nous n'étions pas en mesure de le dire, et en fait nous nous sommes enfermés dans des réponses qu'on imaginait à court terme apaisantes, facilitantes, etc., mais qui en fait dégradent considérablement la relation quand on y pense, parce que ces pauvres Dupont, les oreilles leur sifflent, ils n'y sont pour rien, et en fait il y aurait eu une façon très simple de décliner l'invitation relation sans blesser, hein, c'était de dire, ben, c'est très gentil, merci de nous avoir invités, mais voilà, samedi prochain, j'avais prévu de passer la soirée avec mon épouse, voilà. En vérité, enfin voilà, si vraiment vous avez envie de passer la samedi suivant avec l'épouse, évidemment, hein. Mais voilà. Par quelle affaire nous mettons-nous dans des situations fréquentes où nous sommes nous ne disons pas, nous ne sommes pas capables de dire ce que nous avons envie de dire en vérité, hein? Enfin, je sais bien par quelle affaire, hein, c'est parce qu'il y a un certain nombre de raisons qui nous ont appris à fonctionner un peu comme cela, voilà, pour ne pas vexer l'autre, pour ne pas le fâcher, parce que parfois on a aussi été bien éduqué et on a l'esprit de sacrifice et on va y aller parce que ça leur fait plaisir, voilà. Donc voilà, mais à terme ça peut créer des, voilà, ça peut être des gros parasites de la relation, et donc c'est ce qu'on appelle l'assertivité, c'est-à-dire la capacité à exprimer ce qu'on a vraiment envie de dire sur le cœur, voilà, comme on dit, mais de façon bienveillante, de façon non blessante pour l'autre. Cas concret, vous avez une bonne amie qui vient de s'acheter un collier, voilà, il y a plusieurs solutions, parce que évidemment cette amie va vous dire, mais comment trouves-tu mon collier, voilà. Et en fait, alors, vous n'aimez pas du tout ce collier, hein, entre nous, voilà. Donc là, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Et vous pouvez dire, ouais, sympa ton collier. Mais là, vous vous rendez bien compte que vous n'êtes pas en accord, nous ne sommes pas en accord avec nous-mêmes quand on dit ça. Alors voilà, on va flatter, c'est un peu de la manipulation quelque part, hein, un peu de la ruse, hein. Voilà, parce qu'on n'ose pas, on lui dit, mais s'il est moche ton collier, elle va mal le prendre. Ce qui dit comme ça est probable, voilà. Donc on va dire, on va prendre le contre-pied, on va dire, oui, sympa ton collier, mais non, je suis pas moi quand je dis ça. Alors vous pouvez être en accord avec vous-même en disant, je n'aime pas ton collier, mais là vous sentez que, alors là vous êtes en accord avec vous-même, mais ce que vous dites là va être ressenti comme un jugement et une critique, et ça risque d'abîmer la relation que vous avez avec votre ami à laquelle vous tenez, bien sûr, hein. Alors il y a une autre solution qui dit, oh, bah, moi j'ai pas d'opinion, voilà, ça c'est la fuite. Et on la croise aussi, cette façon d'être, hein. Et puis peut-être qu'une solution aurait été de dire, écoute, pour ma part je ne l'aurais pas acheté, mais je suis content qu'il te plaise, voilà, hein. Voilà, c'est une formulation assertive, c'est-à-dire que vous êtes en accord avec ce que vous pensez, hein. Je ne l'aurais pas acheté pour moi-même, mais je suis content qu'il te plaise, parce que effectivement il plaît à votre ami et vous avez envie de lui reconnaître cela. Voilà, j'ai un peu développer l'assertivité parce que c'est vraiment une notion fondamentale quand on veut rentrer ou quand on veut essayer, hein, parce que, enfin voilà, ça vient pas comme ça, mais quand on veut essayer d'être dans une relation un peu authentique avec l'autre. Voilà, et puis le dernier point, c'est la disponibilité. Nous traversons tous des moments dans lesquels notre stress nous rend indisponibles aux autres, voire à nous-mêmes d'ailleurs, et il faut donc gérer son propre stress pour répondre correctement aux besoins de notre entourage. Et plus mon niveau de stress est faible, plus je me sens bien, plus je me sens en harmonie avec moi-même, avec ceux qui m'entourent, et plus du coup je suis disponible à l'autre. Cette disponibilité vaut pour moi et pour mon interlocuteur, et on revient un peu dans l'assertivité, parce qu'on peut imaginer qu'il y a des moments où on n'est pas disponible. Et plutôt que d'écouter l'autre en n'ayant qu'une envie, c'est de que ça se termine le plus vite possible, hein, vous savez, l'enfant qui le soir vient vous chercher parce qu'il a vraiment quelque chose, ou l'épouse, ou l'époux qui vient, voilà, faut peut-être mieux dire, écoute, mon chéri, ce soir je suis pas disponible pour toi, j'ai eu trop de soucis dans la journée, mais je te promets demain, voilà, on prendra un temps, voilà, plutôt, hein, de reporter la disponibilité si nous ne sommes pas en état de l'être pleinement. Voilà, alors quand c'est possible, hein, parce que je sais bien que parfois tout cela est bien, mais c'est pas forcément réalisable systématique. Alors, ce que je voulais dire maintenant, c'est que dans la actes d'éducation, ces six incontournables, respect, confiance, écoute, active, langage, compris, expressivité, assertivité, disponibilité, sont évidemment mis à l'épreuve pour plusieurs raisons. La première liée à l'âge des acteurs, les autres liées à nos propres limites, à nos expériences personnelles qui tantôt nous parasitent, tantôt nous enrichissent. Dans l'éducation, ces six incontournables sont déterminants pour deux motifs. Le premier parce qu'ils le sont dans toute relation, et ils le sont évidemment encore plus dans la relation éducative, où l'enfant est en croissance. Et le second parce que si ces six prérequis ne sont pas incarnés par le maître ou le parent, père, la mère, il y a peu de chances que l'enfant ou le jeune les acquiert, les reconnaisse, les fasse siens, mais plutôt qu'il reproduise ce qu'il a sous les yeux. Donc, si je reprends mon premier point, à savoir le respect à l'école, j'entends souvent dire que les jeunes ne sont plus respectueux de rien. Et le contraire, je l'espère, mais on entend souvent dire cela. Ce que je voudrais dire, c'est que l'exemple vient souvent d'en haut, et que globalement, ils sont le reflet de la façon dont nous-mêmes, adultes, nous nous comportons. Voilà. Donc quand une personne dit « casse-toi pauvre con », ou quand un sportif donne un coup de tête sur un terrain à un autre joueur, voilà, ou bien quand on a un professeur qui rabaisse un enfant en pleine classe devant ses camarades, voilà, quand tel parent peut frapper parfois son enfant, eh bien évidemment ce sont des marques d'irrespect profond qui rentrent dans l'esprit de l'enfant, qui est une éponge, et qui va précisément le marquer dans sa façon lui-même de gérer les relations qu'il a avec autrui. Donc si notre respect n'est pas irradié à travers la façon dont nous-mêmes nous sommes, dont nous-mêmes nous pensons, le rapport à l'autre, la façon de parler, la façon d'agir, de faire, alors il disparaît d'autant plus vite que celui qui pendant longtemps fut le prix, pendant longtemps on a été dans un autoritarisme un peu assumé, mais qui a disparu, et donc le concept d'obéissance, d'intimidation, d'autorité de pouvoir, lui n'est plus du tout pratiqué dans nos civilisations, enfin ça marche plus, hein, manifestement. On verra d'ailleurs que la vraie autorité, c'est celle qui fait grandir, évidemment c'est pas une autorité de pouvoir, c'est un immense respect. La deuxième qualité, c'est la confiance. Est-ce que nous mettons cette valeur première à sa vraie place dans notre relation éducative ? C'est marrant comme les parents, vous savez, quand l'enfant a 12 ou 13 mois, va faire ses premiers pas, et là, l'accueil réconfortant des bras du papa ou de la maman sont vraiment très visibles. Et puis, au fil des années, eh bien, cette sollicitude a tendance à disparaître, et cette confiance qui est primordiale pour la construction de l'estime de soi et la sécurité de l'enfant, eh bien, malheureusement, elle a tendance parfois à disparaître. Alors, pas forcément d'ailleurs par chose négative ou esprit de... Non, c'est plutôt, je pense, par négligence, c'est-à-dire qu'on prend pas, on ne prend plus le temps de s'émerveiller, d'applaudir à tel ou tel geste, parce que c'est moins spectaculaire que l'enfant qui, à 13 mois, arrive à marcher à peu près debout. Mais derrière, on a une construction de confiance à mener, et donc, que fait-on ? Il y a des phrases qui sont compliquées parfois pour mener cette confiance et pour la faire grandir dans l'enfant, en croissance, dans le jeune, hein, à l'école ou à la maison. C'est des phrases qui en fait sont normalement rassurantes, mais en fait qui ne le sont pas. Je m'explique, mais tu sais, Jean, t'as pas de complexe à avoir, hein. Ou bien, non, mais il faut que tu t'aimes, Jean, il faut que tu t'aimes, hein. Ou arrête de te diminuer comme ça. Mais non, tu n'es pas stupide, voilà, parce que l'enfant peut parfois dire, mais non, tu n'es pas nul, ou voilà, ces phrases qu'on répète, parce que l'enfant dit, ouais, je suis nul, mais non, t'es pas nul. Voilà. Ces phrases-là, je ne suis pas sûr qu'elles mettent en confiance, parce que quand les enfants récupèrent ces réponses-là, il me semble qu'une partie d'eux-mêmes a tendance à penser que c'est à raison, hein, et qu'il y a une part de vrai dans ce qui est rapporté. Hein. Surtout quand ces pseudo-compliments-là arrivent tardivement, au moment où il est presque un petit peu trop tard, parce que l'enfant a tellement écorché un peu sa confiance en lui et son estime de soi, que les parents, nous-mêmes, hein, voilà, je me mets dans le lot, bien sûr. Hein, eh bien, on essaie de compenser avec des compliments qui sonnent pas totalement justes. Hein. Et donc, est-ce que ce comportement-là est crédible auprès des jeunes? Je n'en suis pas sûr. L'écoute active, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui est probablement l'exercice le plus difficile à faire avec des jeunes, parce que il suppose que nous décentrions pour voir le problème du point de vue du jeune qui est devant nous, que ce soit un fils, une fille, un élève, et il faut être encore plus vigilant que d'habitude parce que dans notre mission d'éducation, c'est vrai qu'il nous faut aussi parfois montrer des voies, montrer des chemins, proposer des options. Donc voilà, il y a vraiment, c'est d'ailleurs l'étymologie du mot éducation. Hein. Éducation, c'est mener hors d'eux. Donc on est appelé, en tant qu'éducateur, à emmener l'enfant vers des ailleurs. Hein. Mais il nous faut aussi cet exercice un peu difficile de voir les choses aussi du point de vue de l'enfant. Sinon, on s'expose à ne pas le comprendre et à ne pas du tout comprendre ce qu'il a à nous dire. Hein. Prenons un exemple. Vous avez la petite Marie qui a 14 ans, qui rentre du collège et qui annonce à sa mère: maman, tout le monde dit que le brevet sera très dur cette année. Cas concret. Hein. Première réponse de la maman: mais non, t'en fais pas, tu vas l'avoir ton brevet, t'as toujours réussi, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Réaction probable de Marie: elle soupire, se détourne et s'en va dans sa chambre. Le dialogue s'interrompt. Deuxième réponse de la mère: ah ben c'est sûr qu'en passant des heures sur internet avec tes copines au lieu de réviser, c'est mal parti. Réaction possible de Marie: j'aurais mieux fait de me taire, elle ne comprend vraiment rien de toute façon. Elle va dans sa chambre et il y a de fortes à parier qu'elle va se connecter à internet pour chatter avec ses copines en disant: mais vraiment ma mère, elle ne comprend rien. Troisième réponse de Marie, donc inutile de dire que le dialogue s'interrompt aussi là, hein. Et troisième réponse de Marie, de la maman, pardon, moi à ta place je commencerai à réviser dès maintenant. Réaction de Marie: super, merci pour le conseil, tu crois que je t'ai attendu pour commencer à réviser? Et agacée, elle hausse les épaules et change de sujet et le dialogue s'interrompt. Voilà, donc je pense que ça doit vous parler. Hein, ça nous parle, ça. Hein, voilà. Parce que spontanément, c'est un peu comme ça qu'on réagit, comme professeur ou comme parent. Or, ces réponses-là, manifestement, et je crois qu'on en est tous conscients, ce ne sont pas les réponses qu'attend Marie en question. Elles sont sûrement confortables pour la maman. Mais en fait, elle ferme le dialogue. Et on n'est pas dans une écoute active. Dans la première situation, la maman, elle tente de rassurer sa fille. Dans la deuxième, elle utilise la menace. Et dans la troisième, elle donne un conseil. Voilà. Mais dans tous les cas, Marie, elle s'en va et le dialogue s'interrompt. Parce que, en fait, son problème... Elle ne demandait pas une résolution de son problème, en fait. Elle demandait d'abord à être écoutée et elle n'a pas trouvé l'aide qu'elle cherchait auprès de sa mère. Et donc, elle repart avec la même préoccupation, la même angoisse qu'elle formulait probablement mal, hein, au début, en disant « le brevet va être très dur cette année hein. ». Donc, qu'est-ce qu'aurait pu répondre la maman si on refait le dialogue? Voilà, on va rembobiner l'histoire, on revient à notre situation initiale. Tout le monde dit que le brevet va être très dur cette année. Hein. Réponse de la maman: tu sembles inquiète. Voilà, tu sembles inquiète. Donc, elle reformule et elle double le dialogue. Hein. Et Marie, probablement, oui, j'ai l'impression que j'aurais pas le niveau. La maman: est-ce que tu crois que le niveau est trop dur pour toi? Marie: ben oui, si je rate et que mes copines réussissent, qu'est-ce que je vais faire sans elles? Qu'est-ce que je vais devenir? La maman: tu veux dire que tu as peur de rater le brevet et de te retrouver sans tes copines l'année prochaine, c'est bien ça? Oui, en plus elles ont l'air sûres d'elles, elles parlent du lycée dans lequel elles seront, et moi j'y serai pas, et puis je vais redoubler, etc. La mère: tu as l'impression d'être la seule à t'inquiéter pour le brevet? Exactement, dit Marie. Donc, la maman, si je comprends bien, tu aurais donc besoin d'être assuré d'avoir le niveau pour obtenir ton brevet, mais aussi de pouvoir partager ton inquiétude avec tes copines. Oui, je me sentirais moins seul et peut-être plus sûr de moi. Et la maman, est-ce que tu verrais une solution? Et à ce moment-là, Marie, oui, en fait, Céline et Aurélie se posent aussi des questions. Elles ont eu les mains, elles m'ont dit aussi la même chose que moi, que le brevet allait être très dur cette année, etc. Et du coup, la maman de dire, ben voilà, tu sais, tu n'es pas la seule. Voilà. Tout ça pour dire que vous voyez bien que ces réponses-là, ça oblige la maman en question à gommer ou oublier pour un temps ses propres réactions pour rentrer dans une autre logique qui est de faire rebondir le dialogue et d'enrichir et d'arriver à faire que cette Marie cerne davantage ce qu'elle voulait dire en disant « le brevet va être très dur cette année ». Voilà, il y a cinq solutions. C'est rester centré sur le problème que vous apporte l'enfant. C'est reformuler ce que dit l'enfant. C'est d'aider l'enfant à mettre des mots sur son ressenti. Et c'est pas facile, parce que c'est pas facile pour les adultes non plus. L'aider à mettre des mots sur ses besoins. Et puis, autant que faire se peut, accompagner son enfant à trouver des solutions, à la mettre sur la piste de solutions. Point suivant, sur la compréhension du langage. On a vu tout à l'heure qu'il y avait 9 possibilités de ne pas se comprendre. C'est encore plus vrai entre les adultes et les enfants, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire problème de lexique, problème de syntaxe, problème de maîtrise langagière, de connexion. Et en fait, voilà, c'est un ancien enseignant qui vous parle, pour avoir beaucoup échangé avec des enseignants, la plupart des exercices qui sont ratés en général, c'est pas forcément parce que les enfants n'avaient pas les connaissances ad hoc pour résoudre le problème, mais parce que les consignes n'ont pas été comprises. Enfin, s'il y a des enseignants dans la salle, je pense qu'ils pourront confirmer cette analyse. Voilà. Problème de compréhension du langage. Mettre des mots sur des choses n'est pas facile. Voilà. Donc pour des parents, pour des adultes, c'est pas facile. Donc pour des enfants, c'est un Everest. Sur l'assertivité dont je parlais tout à l'heure, même chose. Vous voyez bien que ce n'est pas forcément spontané d'arriver à dire ce que nous avons envie de dire sans blesser l'autre. C'est un apprentissage et ça nécessite une écoute intérieure. Donc quel est l'exemple que nous donnons en tant que professeur, en tant que parent? Est-ce que les enfants ont dans l'exemple de la classe un professeur qui accepte de dire telles qu'elles sont, voilà, sans cacher ou falsifier la vérité, mais de façon bienveillante. J'ai vu dans la petite librairie à gauche là qu'il y avait beaucoup de choses sur la bienveillance, mais c'est essentiel dans l'éducation, parce que la bienveillance, elle sécurise l'enfant, et vous savez bien que l'enfant ne grandit jamais aussi bien que quand il est dans un milieu sécurisé, et a fortiori qu'il rencontre beaucoup de problèmes quand il est justement sur des milieux ou dans un milieu très insécurisé. Voilà. Et puis disponibilité, ça nous ramène tous à nos priorités. Est-ce que les enseignants sont toujours disponibles aux questions des jeunes, ou même si la question n'est pas dans le programme, voilà. Mais ça, c'est ce que je dis souvent aux enseignants, aux jeunes enseignants. Je leur dis, mais vous savez, sur votre pierre tombale, il n'y aura pas marqué ici J. Jean Dupont qui a respecté les programmes. Voilà, on a une loyauté à avoir par rapport à notre contrat à l'éducation. Mais l'enseignant, il est aussi un éducateur, donc il ne doit pas repousser la question que lui pose un jeune. Et si vraiment il ne peut pas y répondre, en tout cas ne pas la laisser de côté et la gommer d'un simple mot, mais dire, ben voilà, toujours dans l'assertivité, ben écoute, Jean, j'entends la question que tu me poses, là tout de suite je ne peux pas y répondre, mais elle est très intéressante, et attends-moi, à midi et demi je réponds à ta question. J'essaie de répondre à ta question. Voilà. Donc ça c'est disponibilité, et puis alors nous à la maison, je nous ramène à nos propres limites, entre les mails qu'on traite le soir, le match de foot ou de rugby, etc. Est-ce que nous sommes pleinement disponibles à cette éducation et aux attentes de nos jeunes? Donc tout ça pour dire que la relation, ça s'éduque. Et que, pour ma part, je suis très étonné que nous passions... Alors, j'ai fait un petit compte, comme ça. Entre la maternelle et la troisième, les élèves passent 320 heures en art plastique, ce qui est vraiment une bénédiction. Voilà. Ils passent 1280 heures en mathématiques. Ils passent 620 heures d'anglais. Voilà, je ne vais pas vous faire toutes les matières, ça serait rébarbatif. Et tout ça pour vous dire que on passe énormément de temps à l'école à apprendre des disciplines et des techniques particulières, et que nous ne consacrons aucune heure presque à la façon dont on peut s'outiller pour rentrer dans une vraie relation avec l'autre. On apprend sur le tas, on est plus ou moins doué, on a plus ou moins d'exemples sous la main ou sous les yeux, et débrouille-toi avec ça. Or, à mon sens, mettre des mots sur ses émotions, apprendre à rentrer dans une relation authentique, à dire ce que l'on a envie de dire, à être soi-même, et ben ça nécessite un apprentissage raisonné, fonctionnel, progressif, au même titre que l'anglais, les mathématiques ou les arts plastiques. Je vais accélérer un peu, je voulais simplement terminer en rapprochant cette approche relationnelle. Alors voilà, il y a beaucoup de chercheurs qui nous aident à améliorer nos capacités relationnelles et de communication. Hein. Je pense à Gordon en particulier, mais il y a le Christ aussi, qui est un très très bel exemple de ce que nous pourrions faire en éducation. Simplement trois focus. Le premier, c'est que l'homme, et ne pas perdre ça de vue quand on est éducateur, qu'on soit parent ou professeur, l'homme est une icône de Dieu. Si on revient dans l'Ancien Testament, et cette injonction tirée du Deutéronome, l'être humain est créé à l'image de Dieu. J'ouvre, je cite, « Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Voilà, et de rapprocher cette injonction de l'acte créateur de Dieu, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La miséricorde initiale de Dieu, elle est peut-être là, c'est-à-dire permettre à l'homme d'être plus que l'homme. Je crois que c'est Pascal qui disait ça. Tout ça pour dire que tu ne feras pas d'image taillée, c'est-à-dire que ne transformons pas nos enfants, nos jeunes, dans ce que nous voulons, ce que nous voudrions qu'ils deviennent, parce que ce n'est pas respectueux de leur devenir. Alors, je parle de l'État, vous avez entendu parfois quelques ministres dire qu'il fallait arracher les enfants, les émanciper, les arracher à leurs déterminismes familiaux, sociaux, culturels, intellectuels, ethniques, etc., etc. Probablement qu'il y a il y a cette vigilance à exercer, mais il y a aussi cette vigilance par rapport à nous, c'est tu ne feras pas d'image sculptée de ton enfant, c'est-à-dire que c'est pas parce que papa a fait polytechnique, je dis ça parce que c'est tellement fréquent, enfin pas de faire polytechnique, mais que les parents mettent sur la tête de l'enfant un poids énorme de responsabilité pour que son avenir professionnel corresponde à l'image qu'ils s'en font, parfois de façon un peu idéale, mais non, chaque jeune, c'est ça qui est un peu déchirant peut-être pour les parents, mais voilà, a son chemin à faire. Alors il faut l'encourager, il faut le porter, mais toujours avec ce sentiment que, enfin à mon avis, qu'il faut être éminemment respectueux de son projet à lui. Deuxième petit point sur l'attention et la disponibilité, texte tiré de Marc. Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la route. Apprenant que c'était Jésus, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le !» On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Vous connaissez cette très belle phrase, elle résonne, pour un éducateur, elle résonne de façon très belle, je crois, parce que Jésus, il y a un aveugle qui arrive, et qu'est-ce que va faire Jésus? Eh bien, il va l'accueillir, il va lui poser cette question qui ne nous viendrait pas à nous, à l'esprit, c'est: que veux-tu que je fasse pour toi? Il est mendiant, il est aveugle, on voit bien ce qu'on pourrait faire pour lui, hein. Voilà. Et si on met ça, et si on remet ça en classe, qu'on réécrivait un peu cette histoire, on pourrait, un élève lève la main. Voilà, scénario 1, malheureusement peut-être le plus probable, ses copains lui disent de se taire, comme dans l'évangile, et le professeur aussi, parce qu'il doit finir le programme et qu'il ne peut pas prendre de retard. Le cours se poursuit et l'enfant reste perdu. Voilà. Scénario 2, réaliste, probablement, ses copains lèvent les yeux au ciel, parce que c'est toujours le même élève qui lève la main, évidemment, mais le professeur, pressentant la question, lui rétorque: bon, je réexplique, écoute bien cette fois. Hein, il n'a même pas demandé, voilà. Et puis, scénario 3, idéal peut-être, hein. Oui, quelle est ta question? Le professeur répond et reprend le fil de son cours en s'assurant que l'élève suit, comme Bartimée, qui n'est pas resté assis mais s'est levé pour suivre Jésus. Voilà. Donc très belle phrase de Jésus pour nous éducateurs. Voilà. Que veux-tu que je fasse pour toi? Prendre le temps, hein. Il est dans l'écoute active là, hein, Jésus. Et puis peut-être dernier point sur la confiance, hein. Texte de Saint-Luc, Jésus remarqua un publicain, collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis à son bureau de publicain, et lui dit: suis-moi. Abandonnant tout, l'homme se leva et se mit à le suivre. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison. Il y avait une grande foule de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples: pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs? Jésus leur répondit: ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. Tout ça pour dire aussi que, comme éducateur, ce texte-là ne peut pas ne pas nous émouvoir et nous toucher, parce que Jésus prend soin du plus petit, du plus faible, et que c'est une grande violence faite aux enfants quand, mais malheureusement ça existe, hein, il faut pas mettre la tête dans le sable, quand un enfant ou plusieurs dans une classe sont mis de côté, voilà, parce que ça ne va pas, ça va trop vite pour eux, parce qu'ils posent des mauvaises questions, parce qu'ils sont un peu dynamiques, on va dire ça, comme ça. Voilà, enfin, mettre l'enfant, ne plus interroger un enfant au prétexte que les réponses qu'il donne sont souvent à côté de la plaque, c'est violent, parce que l'enfant se sent mis de côté, se sent rejeté, et quelque part il n'existe plus pour l'enseignant, hein. Voilà, on a parfois ce cas de figure aussi dans des familles, hein, où, enfin, moi j'ai déjà vu, hein, voilà, où le numéro 4 a le malheur de passer derrière 3 futurs normaliens, et les parents ont du mal à accepter que le numéro 4 il va faire un CAP de pâtissier, il va être très heureux comme pâtissier, hein. Voilà, donc le véritable éducateur, il est là pour dire toujours: aie confiance en toi, tu peux y arriver, hein. C'est Don Bosco qui disait: sans affection, pas de confiance, sans confiance, pas d'éducation. Voilà, et puis je terminerai peut-être sur cette confiance, hein, et puis cet appel cette attention aux fragiles, hein, par cette phrase qu'aimait beaucoup répéter Paul Malartre, un ancien secrétaire général de l'enseignement catholique, qui disait: bienheureux les fêlés, la lumière peut les traverser. Vous connaissez peut-être cette citation. Pour terminer, je voulais simplement vous citer un petit passage de la joie de l'Évangile comme conclusion de notre pape François. Plus que jamais, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui, à partir de leur expérience d'accompagnement, connaissent la manière de procéder où ressortent la prudence, la capacité de compréhension, l'art d'attendre, la docilité à l'esprit, pour protéger tous ensemble les brebis qui se confient à nous, les loups qui tentent de disperser le troupeau. Nous avons besoin de nous exercer à l'art de l'écoute, qui est plus que le fait d'entendre, dans la communication avec l'autre, la première chose est la capacité du cœur qui rend possible la proximité sans laquelle il n'existe pas une véritable rencontre spirituelle. L'écoute nous aide à découvrir le geste et la parole opportune qui nous secoue de la tranquille condition de spectateur. C'est seulement à partir de cette écoute respectueuse et capable de compatir qu'on peut trouver les chemins pour une croissance authentique. Voilà, bon, j'arrête la citation, mais c'est un beau texte, voilà, qui insiste, du pape François, qui insiste sur l'importance de la relation et de la relation authentique que nous devons mener, nous aussi, a fortiori, quand on est en charge de l'éducation. Merci.